Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International, l'émission sur RFI qui vous parle toujours de football, quels que soient les résultats, et le jour d'après n'est parfois pas facile, comme aujourd'hui à Marseille, car des armes aux larmes, il n'y a eu que 90 minutes, peut-être moins d'ailleurs, nous allons en parler. L'OM vaincu hier soir à Lyon par des champions, l'Atlético Madrid et son super joueur Antoine Griezmann, auteur de 2 des 3 buts colchoneros.
Nous l'avons mérité, nous avons une équipe très sérieuse. C'est très difficile faire but à mon équipe. Mission accomplie, j'avais couché. J'ai besoin de rien de plus, c'est tout fait.
Belle équipe, beau public, un beau vainqueur et un beau parcours de nos Marseillais. On est quand même fiers d'eux.
Pourquoi les Marseillais ont-ils justement perdu ce match, cette quatrième finale des 5 disputées au niveau européen? Faut-il cependant puiser dans cette saison inattendue des raisons d'espérer mieux dans un avenir proche, en tout cas pour cette équipe? Les déclarations des dirigeants ont semblé encourageantes et nous y reviendrons. Mais l'Europe est un monopole ou quasi-monopole espagnol et bientôt peut-être madrilène. Alors autour de moi pour évoquer ces sujets aujourd'hui, la personne qui nous reçoit depuis 2 jours, qui nous supporte dans ses locaux, dans le restaurant Le Ziguinchor de Marseille, Richard Mendy, bonjour.
Bonjour, bonjour toute l'équipe de RFI, merci de votre présence.
Ça va bien ?
Ça va bien, ça pourrait aller mieux aujourd'hui.
Ça pourrait aller mieux parce que ouais. Vous revenez de Lyon, vous allez nous raconter ça. Oui, Gilles oui. Pérez de même, bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors Gilles, il est journaliste, confrère, ancien des RFI, documentariste aussi, mais là c'est plutôt un supporter en souffrance, vous allez l'entendre. Et puis nous avons aussi à nos côtés François Tomaso, bonjour François.
Bonjour.
Autre supporter en souffrance, passionné de l'OM, qui est journaliste et écrivain. Et puis Mathieu Grégoire, c'est l'homme qui prend du recul, c'est ça ? Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Ouais. Mathieu Grégoire, aussi, mais... de retour de Lyon. Bonjour. Aussi, qui est notre confrère du journal L'Équipe et qui suit l'OM ici pour le journal. Radio Foot, préparez vos mouchoirs.
Jean-Michel Aulas, on n'a rien gagné chez toi.
Ça fait bizarre. Ça marche pas son putain de fumigène, j'arrive pas à le craquer. Ça marche pas. On était en finale putain, on était en finale.
On descend de Poissy exprès pour voir la finale.
Je suis triste et déçu parce qu'on y croyait tous, on y croyait tous.
Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte nous partait l'Indochine en se prenant pour toi dans le riz délavé. Te pleure avec du sang. L'âme marine, oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots qui dans la rue se prenaient.
Marseille, on dirait que la mer a pleuré, grand poète et chanteur qu'était Léo Ferré et qui chantait donc Marseille. Richard et Gilles, d'abord, à vous la parole. Richard, comment s'est déroulée votre soirée et surtout votre retour de Lyon ?
En fait, c'était une soirée magnifique. Hein. Au départ, tout était réuni pour que nous soyons heureux après la rencontre aujourd'hui. Parce que beaucoup d'ambiance, de nombreux supporters venus de Marseille et de toute la France. Et puis aussi, il faut quand même reconnaître que les Madrilènes étaient très nombreux, ce qui a permis d'avoir un stade plein et avec beaucoup d'ambiance. Bon, malheureusement, des faits de jeu ont fait que le résultat n'a pas été à notre faveur. Et puis, le score qui reflète pas vraiment la physionomie du match a contribué à ce qu'on ait un retour
malheureux,
plus que douloureux.
Comment on fait dans ce cas-là ? On arrive à... On chante quand même dans la voiture ?
Comment on fait ? Non, on chante pas. On se ressasse un peu les actions, on refait le match, puisque moi j'étais monté avec 3 amis en voiture. Et puis, même quand il y a des blancs dans la voiture, vous entendez des purées, merde. voilà, des gens qui, dans la tête, se refont un peu le film. Et puis, on repart sur un débrief dans la voiture. Et puis, à nouveau, ça se calme. Et puis, on entend, mais merde. Et puis, ça continue. Et puis, voilà, c'était, oui, beaucoup de regrets. Un sentiment d'impuissance à partir, je pense, de la sortie de Payet et de la deuxième mi-temps, je veux dire, parce qu'on a, je trouve que la première mi-temps a été bien maîtrisée.
Voilà. On va y revenir. Gilles, vous aviez réussi à trouver des billets hier matin. Vous partez là-bas jusqu'à Lyon. Et comment vous revenez?
Écoutez, j'ai une révélation à vous faire, Annie. C'est pour Radio Foot International. Je sais pourquoi l'Olympique de Marseille a perdu hier. Tout a commencé 4 heures avant le match. On est devant ce stade qui est magnifique, même s'il est entouré de marécages. Tout autour, il y a des grenouilles, c'est très étonnant. Curieux Jean-Michel Aulas. Et on se presse là, on est entouré par énormément de forces de sécurité républicaine qui ont des comportements très étonnants, qui nous poussent d'un côté, qui nous poussent de l'autre. Et puis là, tout d'un coup, on aperçoit Marc Libra. Vous voyez cette figure élégante de Marc Libra qui surplombe comme ça la foule du haut de son 3 mètres 12. Et j'ai juste à côté de moi une Marseillaise, tout énamourée. Oh, Marc Libra est là, je veux faire le selfie. Et donc elle essaye de se rapprocher de lui pour lui demander le selfie. Et Marc Libra lui refuse le selfie. Vous imaginez, cet homme élégant d'ordinaire. Cet homme
consultant sur RFI hier soir.
Consultant sur RFI hier soir, qui lui refuse le selfie. Et là, je me dis, c'est un mauvais présage. On rentre dans le stadium, on rentre sur les gradins. Et vous savez, une demi-heure avant le début du match, l'équipe commence à prendre ses marques, vient saluer ses supporters, etc. On les chante à ce moment-là, c'est assez merveilleux. Et puis, on voit notre Steve Mandanda qui s'échauffe. Et au quatrième tir, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête du préparateur physique des gardiens. Il lui loge une petite balle à ras du poteau que Steve ne peut pas avoir. Et là, on voit Steve Mandanda se rouler sur lui-même, taper 3 fois le poing sur la pelouse, totalement déprimé. On se dit, ah non, Steve, faut que tu sois dans un bon jour. Et Steve ne reprend pas tout de suite l'entraînement. Il est dans sa tête. Il vient de perdre un ballon, il était déjà dans le match. Deuxième mauvais présage. Et alors, le troisième, mais là, c'est le mauvais œil. C'est vraiment le chat noir. 30 secondes avant le début du match, il y a 2 places libres à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Je vois arriver un personnage que je reconnais tout de suite, le véritable chat noir. Un Parisien, un ancien joueur parisien, Sylvain Armand, qui se colle juste là, à côté de moi. Moi, je suis en train de sauter. Qui ne saute pas n'est pas marseillais, je le vois. Je dis, ah non, vous commencez à...
Parisien et Rennais en plus.
Et Rennais, il avait tout. Je dis, ah non, mais vous commencez à sauter là tout de suite. Sinon, on est mal, on a perdu. Et là, il me dit, je suis désolé, je viens ici, mais vous savez, c'est parce que je suis ami avec Dimitri Payet. C'est lui qui m'a permis de venir. Sinon, j'allais avec les places de Gamero et de Griezmann du côté de l'Atlético. Du coup, je voulais pas, je suis quand même français. Je dis, mais filez de l'autre côté. Non, il reste à côté de moi. Et on a passé 90 minutes de souffrance avec Sylvain Armand, ce boucher des tibias. Voilà, cet homme terrible, juste à côté. Vous imaginez notre supplice.
J'imagine la souffrance. François Tomaso, vous, votre souffrance, c'était à quelques encablures d'ici. C'était comme celle de Gilles. Vous avez senti des signes avant.
Elle était plus, comment dire, plus philosophe. Parce que déjà on n'était pas dans la chaleur on va pas dire le chaudron du stade des Lumières, faut quand même pas exagérer, c'est un stade moderne où on vibre différemment que dans les vieilles enceintes qu'on a pu connaître. Mais moi j'étais dans le chaudron de Notre-Dame du Mont qui est quand même l'endroit que les Marseillais connaissent, je me suis longtemps demandé, moi, mon angoisse, j'avais pas de place, je suis plus journaliste donc j'ai aucune chance d'être accrédité, mon angoisse c'est où je vais voir le match. Et puis dans ces cas-là, mon angoisse dure assez peu longtemps. Donc, pour les matchs de l'OM, je vais à Notre-Dame-du-Mont, qui est un genre de d'esplanade, mais c'est même pas une place, hein, où il y a des terrasses en enfilade, de bars plus ou moins chelous, dans lesquels ils sont assez différents les uns des autres. Il y avait un temps, il y a 2 Corses, une pizzeria, un traiteur bobo, un bio, un peu de tout, un bar à bière, et chacun a sa clientèle avec l'écran géant et regarde le match. Alors ça passe un peu de les tables, les chaises se remuent. Vous commencez des fois chez le Corse, vous finissez au bord de la place ou chez le vegan. Mais quoi qu'il en soit, dans les soirs de match, la passion se transmet de terrasse en terrasse. Parfois, vous buvez, vous trouvez avec des boissons à betterave bio au lieu du pastis que vous aviez cru commander. Mais bon, donc il y avait comme ça cette atmosphère un petit peu, cette émulsion, je veux dire, d'avant match et pendant les 20 premières minutes, vraiment cette tension positive du supporter en train d'assister à son équipe rend honneur au maillot, son équipe est là et on vibre avec elle. Et on était même assez, honnêtement assez surpris de voir pendant 20 minutes une équipe qui tient la dragée haute à l'Atlético, qui même le déstabilise, l'occasion de Germain. Ça, c'est quand même assez rare de voir les défenses de l'Atlético, qui est une des pires, si j'ose dire, en tout cas une des plus solides d'Europe, comme ça, mise à mal. Et puis, soudainement, la chute, l'anticlimax. Et à Marseille, on est excessif dans l'enthousiasme, et on est aussi d'une dignité sépulcrale dans la déception. Et je vous dis pas la fin. Marseille, hier soir, à 22h45, était quand même assez sinistre, quoi. On entendait les gardiens voler. Hein. C'était... voilà.
Silencieuse. Alors justement, on va les entendre, ces Marseillais. On s'est promené avec notre micro dans les rues du centre de Marseille et du côté du cours Julien.
Je suis déçu du match. On a joué, mais ils étaient plus forts que nous. Et voilà, c'est comme ça. À partir du moment où ils ont marqué, je me suis inquiété parce que devant, je sais que c'est une équipe qui est très difficile à marquer. Pour moi, c'était devenu presque compliqué. De toute façon, on ne s'attendait même pas à être là. Donc, voilà, après, ça passe. Quoi. Là, c'est une soirée, on est déçu, mais voilà. L'OM sera toujours dans nos cœurs.
Déçu, triste, tout ce que vous voulez, quoi. Ils ont fait une bonne entame, ils auraient pu marquer le premier but. Après, on ne gagne pas une finale quand on fait un cadeau à l'adversaire, surtout un adversaire comme l'Atlético, qui est connu qu'une fois qu'il marque, il est très difficile à remonter. Après, bon, on a eu manque de chance, Payet il s'est blessé, le tir sur la barre de Mitroglou, ça aurait pu tout changer. Mais on n'a pas à avoir honte, on a fait jeu égal avec le fameux Atlético. On aurait marqué les premiers sur le but de Germain, ça aurait tout changé. Mais la différence, c'est ça, c'est les joueurs qui, quand vous leur donnez un ballon, ils marquent un but, et les joueurs où il faut leur donner 4, 5, 6 ballons pour qu'ils marquent un but. C'est toute la différence. Le jour où Marseille en aura un joueur, faut lui donner 3 ballons, il marque 2 buts, on est champion d'Europe. Faut qu'il trouve le gars qui plante, c'est tout. Parce qu'on joue bien, on doit jouer mieux qu'eux, mais on n'a pas planté. Voilà, c'est tout. C'est toute la différence. Le football, c'est ça. C'est les buts qui vont au fond ou qui vont pas au fond.
Il fait très très mal aux fesses. Ah oui, ce 3-0 fait très très mal aux fesses, mais bon, c'est pas grave, hein. On a quand même mis du cœur. Il y avait tout le peuple olympien derrière nous, mais bon, c'est pris quand même une belle tollée quand même. Mais bon, l'important c'est de participer, hein, comme on dit.
Tant pis, hein. On s'en doutait un peu quand même, faut être honnête. L'Atlético, c'était compliqué. Hein.
Ouais.
Mais bon, allez l'OM. Hein.
Allez l'OM. Et pour l'OM, allez, allez. Et pour l'OM, allez, allez.
Il y en a qui avaient encore le cœur de chanter, comme vous dites. Hein. Ils sont dignes dans la déception. Mathieu, vous qui étiez au stade et qui aviez un regard sans doute plus clinique sur le match, on sent que ce match, quand même, fait que les supporters sont déçus, mais pas en colère.
Non, parce qu'ils se rappellent du parcours quand même qui les a fait vibrer et qui a créé un véritable engouement à partir de Bilbao en huitième de finale où il y avait ce huitième de finale aller déjà une belle ambiance alors qu'il y avait 35-37 000 personnes mais c'était des gens qui revenaient un peu au stade pour revivre une expérience européenne et ils se sont régalés. Bon, après je passe sur Leipzig, Salzbourg et puis le côté d'une finale qui crée une sorte de mouvement spontané comme il y en a à Marseille tous les 5 ou 10 ans. Ça avait commencé avec OM Bastia en 72, donc la finale de Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est une ville qui a retrouvé de la fierté, c'était le mot qui venait souvent dans les supporters, et ça ne l'a pas été enlevé par ce match-là, surtout qu'ils sont tombés sur un ogre. Donc ça peut-être ça atténue aussi ce sentiment de on va pas reprocher aux joueurs d'être tombé sur Griezmann qui a été d'une efficacité redoutable, qui est merveilleux, qui est dépouillé dans son jeu, qu'on voit pas, et puis quand il faut mettre deux buts, deux tirs cadrés, deux buts. Donc voilà, il y avait ça, il y a une belle dignité aussi au stade, parce que ils ont vraiment poussé les 10 dernières minutes. Au cœur de la seconde période, on entend quasiment plus que l'Atlético. Les supporters de l'Atlético sont vraiment aussi très chauds.
Et quand il y a l'éclair Mitroglou, voilà, là, tout d'un coup.
À un moment, Juan Fran concède un corner un peu bêtement et ils repartent. Et puis à la fin, Mitroglou, centre de Rami, voilà. Même la saucisse de NG, ça ne les tue pas. Donc voilà, et ils partent, ils saluent les héros, ils partent, aucune dégradation. Ça, faut le noter. Peut-être aller un dessus de siège enlevé par-ci par-là, mais c'est. infime par rapport à ce que ce
qu'on
avait promis.
Qu'on redoutait, effectivement.
Voilà, donc vraiment une très très grande dignité
et
beaucoup de souvenirs, je pense, ramenés, quoi.
Alors venons-en à ce match et disséquons un peu ce qui s'est passé sur la pelouse, les moments forts, justement. Alors vous parlez de Mandanda qui peut-être était en dehors du match déjà avant. Eh bien écoutons-le, Steve Mandanda, parce que je pense que le ton de sa voix résume exactement ce que pensent ses camarades.
Cette finale, tout le monde l'attendait, tout le monde voulait la jouer. Voilà, c'était un soir qui était, on va dire, pas pour nous, par rapport déjà au but encaissé. Ensuite, Dean qui se blesse, on tape le poteau. Ça fait beaucoup. On a perdu, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? C'est bien joué, eux, ils ont joué avec leur qualité. Nous, ils gagnent, ils soulèvent le trophée, nous, on rentre sans rien. Donc, c'est comme ça.
Richard, est-ce que vous, dans votre cœur de supporter, vous vous dites c'est de la faute de Mandanda ?
La première réaction, je pense que tout le monde dit Anguissa.
Qu'est-ce qu'il a foutu ?
Voilà. Non, mais Anguissa, on met la faute sur Anguissa. Après, c'est qu'après qu'on voit que Mandanda quand même prend un gros risque en relançant dans l'axe. Pour ma part, j'estime que si Anguissa était plus technique que ça, il aurait pu contrôler ce ballon et le mettre sur le côté. Et puis, ça fait un beau jeu de relance.
Zambo Anguissa qui, par ailleurs, fait un très bon match.
Il fait un très bon... Moi, Zambo Anguissa, il m'a vraiment surpris, comme toute l'équipe. Mais il a bien tenu le milieu, parce qu'on disait que c'était...
sans Luis Gustavo.
Gustavo qui occupait le milieu. On avait un peu des doutes. Mais là, Anguissa, il a très bien tenu le milieu. Il faut vraiment le dire. Il y a eu quelques erreurs de relance, notamment deux ballons qui sont partis en touche en deuxième mi-temps. Mais honnêtement, Anguissa, il a fait une très très belle rencontre, mis à part cette erreur qui est fatale quand même.
François ?
Pour moi, on est dans l'exemple type de l'équipe qui est en sur-régime. C'est-à-dire qu'on on a 20 minutes. On y croit parce qu'en effet et ça on peut leur en savoir gré. Le maillot ils l'ont mouillé, les couleurs ils les ont portées, mais c'est comme dans un match de tennis, vous avez un inconnu qui sur le court central mène 2-7-0 contre le numéro 1 mondial. Vous êtes content, vous dites ah ah, qu'est-ce qui va, et puis quand même, faut le dire la vérité, 99 fois sur 100 au final l'autre il gagne en 5-7. L'Atlético c'est leur jeu, ils laissent venir, ils font pas le jeu, ils font déjouer et parfois surjouer, et j'ai eu l'impression en effet que ces 20 premières minutes, on a une équipe marseillaise qui est ce qu'elle est, mais qui a aussi ses petits problèmes. Payet n'est pas au top, on le voit puisqu'il sort. Mandanda revient de blessure, donc forcément d'emblée, tu veux dire, toutes ces relances du match sont, on va dire, pour être gentil, approximatives, ou en tout cas pas toujours très inspirées. Le nombre de relances où il trouve la touche comme au rugby plutôt que de trouver un partenaire, c'est quand même assez important. Est-ce qu'il devait jouer, oui, eu égard à son statut à l'OM, peut-être pas eu égard à sa forme du moment. Donc avec tous ces petits éléments qui fait que vous avez en face une équipe qui a l'expérience européenne, qui a des joueurs exceptionnels, qui fait des jouets, qui a pas énormément d'absents, et vous êtes en sur-régime avec des joueurs limite, nos joueurs symboles, Payet, Mandanda sont pas au top, Mitroglou non plus, et ben au final, gagner un match comme ça, disons la vérité, c'est impossible. Alors, 3-0, je suis d'accord avec Richard, c'est lourd parce qu'on donne un but, et le troisième, ouais, ça fait partie de ces buts, une fois que le match est plié, qu'on plante, pour l'addition. En vérité, on a perdu 1-0, on s'en sort mieux, mieux que les Herbiers.
Ah, mais c'est vrai que c'est très charpie.
C'était dur. Et
surtout le match, Mathieu. On avait ce sentiment que le match était terminé à 1-0 en fait, parce que l'OM avait manqué sa chance. Et après, l'Atlético était un peu fébrile, comme disait François tout à l'heure. On le sentait un peu déstabilisé au début de match. Et là, ils ont posé une chape de plomb en fait sur le match. Marseille, c'est une équipe qui est beaucoup dans la réaction, qui est beaucoup à l'énergie. Et on a senti qu'à partir de ce moment-là, l'Atlético était en confiance. Et puis il commençait à truquer, mais à l'Atlético, quoi. On met une minute par coup franc, on y va tranquille, on dicte le tempo. Et Marseille, après, n'a quasiment plus existé, sauf, vers la 80e, quand il y a eu ce petit coup de folie avec la tête de Mitro. Mais l'Atlético, clinique, plus juste. Et même eux, ils étaient reboostés. On voyait, au début de match, on voyait qu'ils savaient pas s'aligner. Enfin, Godin gueulait sur tout le monde. Griezmann aussi s'est embrouillé avec je sais plus quel joueur. Après, c'était fini, solidaire, trois joueurs de l'Atlético à chaque match, sur chaque joueur de l'OM avec le ballon.
Gilles, pourtant, est-ce que vous avez perdu espoir dès ce 1-0? Parce que on sait que...
Après le 1-0, c'est non, plus mais... tout à fait le même match.
Oui, mais sauf que l'OM, on les a vus revenir l'autre fois. On se souvient de ce match au Vélodrome contre Nice. Il fallait qu'ils gagnent, ils perdent 1-0 avec un but de Balotelli.
Contre Leipzig, tout de suite. On a l'image de Leipzig au moment du 1-0. On se dit, c'est pas grave, même pas mal. On va y arriver. Et d'ailleurs, le public marseillais se remet à chanter, repousse son équipe en disant... On vous a vu déjà dans le passé faire cela. Mais qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? On avait assisté jusqu'à présent à une vraie leçon de tauromachie de la part de l'Atlético Madrid. Ils ont laissé venir ce jeune taureau un peu fougueux, qui manque d'expérience, qui quelquefois va un peu à cloche-pied et fonce tête baissée. Voilà, ils nous ont écartés. Et puis tout d'un coup, à la première faute, ping, première banderie. Et puis progressivement, on a vu qu'ils nous faisaient rentrer totalement dans leur chorégraphie à eux. Et là, je dois dire, alors qu'on commence juste la Feria San Isidro à Madrid, dans peu de temps, de fait, l'Atlético a remarquablement joué comme il le fait tout le temps. C'est pas une très grande équipe qui fait du jeu. C'est une grande équipe qui profite des faiblesses de son adversaire, qui le fait déjouer. Et hier, véritablement, ils nous ont donné une petite leçon de le haut niveau, il est là. Effectivement, vous n'avez peut-être pas les moyens pour arriver jusqu'à ça.
On se demandait pourquoi ils étaient pas en Ligue des Champions.
Bien entendu,
en début de saison.
Ils nous ont fait un match de Ligue des Champions. De fait, on y a quand même cru. Pourquoi? Parce qu'il y a une passion, parce qu'il y a un petit quelque chose en plus à Marseille, parce qu'il y a surtout un collectif. Et c'est un petit peu ce qui m'a chafouiné hier, c'est que ce collectif, il a un peu marqué le pas hier. Et je dois dire qu'il a surtout marqué le pas après la tentative désespérée, ratée, incompréhensible de Valère Germain. À ce moment-là, lorsque vous regardez les visages des autres joueurs, de ses coéquipiers...
Ils savent qu'il n'y en aura pas d'autres.
Ils ne comprennent pas.
Ce genre d'occasion, vous ne pouvez pas les rater. Moi, je pense quand même qu'il faut... Je suis un vieux supporter, j'en ai eu des déceptions. Il faut rendre grâce toujours à l'adversaire. Je me suis fait la réflexion, parce que je suis un peu, de temps en temps, j'ai comme ça des images étranges qui me viennent. Pendant longtemps, on a parlé du Catenaccio, le football italien qui verrouillait tout. C'est un peu mort ce style de jeu. Pas totalement, mais un peu mort. Dans le cas de l'Atlético, je dirais plutôt, c'est pas le Catenaccio, ça veut dire cadenas. Hein. C'est pas le cadenas, ils ont un football de chaînette. Vous savez, la chaînette, quand vous entrebâillez la porte. Alors, ils vous entrebâillent la porte, vous croyez que vous allez rentrer, et bim, vous la prenez dans la tête. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier soir.
Aïe.
C'est vrai qu'ils sont pas, ils sont pas super à avoir joué, parce qu'on s'attend. On se dit, l'Atlético, grand club, ils vont nous montrer un peu ce que c'est le football. Mais ce n'est pas comme le Barça.
C'est un état
le Barça,
d'esprit, non?
Ce n'est pas comme le Barça ou le Real Madrid. Real Madrid et le Barça, ils ont des individualités qui, par des gestes, vous font la différence. L'Atlético, ce n'est pas ça. L'Atlético, c'est un collectif. Et vous voyez pas d'où vient la différence. À part Griezmann, bien sûr, voilà. Et à Griezmann qui va faire la différence sur le dernier instant.
Mais ils ont toujours eu un tueur, et avant c'était Diego Costa, Falcao, c'est un peu leur mode de fonctionnement.
Au niveau du jeu, vous n'avez pas l'individualité comme un Marcelo, comme un Kroos, ou comme, je sais pas, Iniesta. Il n'y a pas ce genre d'individualité qui fait la différence. À l'œil.
Et ils ont un grand coach.
Mathieu, hier soir, on va y venir. Mathieu, Valère Germain, à la fin, vous l'avez rencontré et on l'a vu sur les réseaux sociaux dire j'en m'en remettrai jamais.
Il était abattu, il va traîner un petit peu sa peine. On a eu des erreurs comme ça. Bon, il y a eu l'erreur aussi à Mandanda Anguissa, je pense qu'il s'en souviendra longtemps. Anguissa, je pense aussi, était vraiment marqué à la fin. On l'a vu craquer d'un coup. Il allait saluer le parquage marseillais. Puis il s'est effondré en larmes. C'est des images qui marquent. C'est un jeune joueur qui a 22 ans. Donc je pense qu'il va lui aussi va le traîner. Finalement, c'est bien peut-être aussi qu'il y en ait plusieurs qui traînent leur peine, parce que ça va pouvoir. On va pas pouvoir dire c'est la finale de Ginola comme il y aura pas de Ginola sur cette finale là. Tant mieux aussi quand même, parce que c'est dur d'être le bouc émissaire d'un groupe. Et donc Germain, voilà, il était là. Je vais avoir du mal à m'en remettre. Je suis en dessous de tout. En plus, il y a tout un passé avec Valère. Hein. On avait fait l'interview croisée dans l'équipe lundi avec son papa Bruno. C'est une histoire de transmission qui est si forte à Marseille, où les pères emmènent leurs fils au stade. Et lui, c'est exactement ça, Valère. Donc effectivement, il va avoir du mal à s'en remettre. Et on va voir aussi cet été, parce que je pense que le chantier du neuf sera en tout cas prioritaire à Marseille.
On va voir ça. Pour l'instant, eh bien, restons sur l'entraîneur, parce que je pense que vous avez tous envie de parler de Rudy Garcia. Et on l'écoute, Rudy Garcia, plutôt résigné en sortant du match.
La meilleure équipe à gagner, celle qui a le plus d'expérience. Il n'y a pas à rougir de cette défaite. On n'a juste pas pu inverser la hiérarchie d'avant-match. L'équipe a fait une belle première période. Si on enlève l'erreur qu'on a faite pour prendre ce premier but, la première période a été de qualité. L'Atlético a haussé son niveau en deuxième période et on a vu toute la qualité de cette équipe à ce moment-là. Avec ce groupe-là, mais un groupe à 100%, on aurait pu rivaliser un peu plus ou un peu plus longtemps avec ce monstre qu'est l'Atlético de Madrid. Et je pense qu'on aura appris aussi sur cette finale. Parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes joueurs. On a envie de revivre ça et je pense que la défaite de ce soir en finale n'enlève rien à la formidable épopée de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on a su rendre fier le peuple marseillais et mettre une grande partie de la France derrière nous. Donc ça, c'est pas le fait de ne pas avoir gagné le trophée ce soir qui nous l'enlèvera. Donc moi, je suis fier des joueurs par rapport à ça.
Alors être fier des joueurs, certes, mais il dit on aura appris. On peut se demander autour de Rudy Garcia, il y a eu quelques questionnements hier autour de son coaching, et donc vous ouvrez un peu la porte, Mathieu, sur cet été. On peut se demander et maintenant, parce que bon, la saison est finie, il reste un match. Est-ce que on parlait tout à l'heure de buteurs, hein, des intervenants disaient des personnes dans la rue disaient il manque un tueur, il manque un buteur. L'Olympique de Marseille a disputé 5 finales européennes, marqué un seul but. Ouais, et un but de Basile Boli.
C'est paradoxal.
Avec un leitmotiv qui est droit au but.
Ouais, parce qu'après les finales, ce sont...
Non, c'est pas méchant.
Mais c'est vrai que c'est pour ça que sur ce que dit Rudy Garcia, ça n'enlève rien à l'épopée, ça on l'a déjà dit. Mm-hmm. Par contre, on a beaucoup appris pour la suite. Bon.
Lui aussi, il a appris, c'est ça.
Ça, ouais, on a appris, ouais. Mais bon, il a appris pour la suite. Sauf qu'une finale, malheureusement, ça se gagne parce que on en vit tellement peu que ça va être dur de capitaliser quand même là-dessus.
Mathieu utilise le terme capitaliser. Je pense que c'est le terme fondamental. Dans capitaliser, il y a capital. Je parle pas de Paris, là, je parle du capital financier. Je pense que la raison pour laquelle l'OM n'a pas marqué de but dans les 5 finales qu'il a disputées, c'est que l'OM n'a jamais eu, à part le but de Boli, ouais. C'est que l'OM n'a jamais eu, à part en 93, une équipe de niveau européen et une équipe avec les moyens. Aujourd'hui, on parlait, il manque un buteur, mais j'entends ça tous les ans. Mais les buteurs de grand talent, il y en a peut-être une dizaine. Une quinzaine sur la planète. Ils sont où? Ils sont
écoute,
dans les 15 plus grands clubs.
Ils coûtent très cher.
Et parfois, ils sont deux ou trois dans les plus grands clubs. Un club, aujourd'hui, avec le schéma économique du football, quand vous n'êtes pas dans le top 10, dans le top 15, on va être gentil, européen, parce qu'ils sont tous ici, hein, pratiquement, vous n'avez pas les moyens, sauf à découvrir la perle rare pendant que la saison suivante va partir, vous n'avez pas les moyens de vous payer un buteur exceptionnel. C'est pas possible.
C'est Gilles. Je crois que, effectivement, Garcia a beaucoup appris avec cette finale, en tout cas je l'espère. L'un de mes chats noirs d'hier soir, en dehors de Marc Libra, donc Sylvain Armand, me disait, vous savez, je les ai appelés, j'en ai appelé un certain nombre de mes copains, côté marseillais, côté Atlético. Côté Atlético, ils étaient sûrs de gagner cette finale. À Marseille, ils avaient peur de la perdre. Et effectivement, dans ces cas-là, le responsable, c'est d'abord le coach. C'est lui qui doit insuffler cet état d'esprit qui est, de toute façon, on va la gagner. De toute façon, on est intouchable. Oui, la montagne est dure, mais on va totalement se surpasser. Il y a une deuxième faute de Garcia, c'est sa composition d'équipe. Quelle composition ? À ma vie, qu'on a vu chancelant lors des trois dernières rencontres, qui est de nouveau titulaire, j'aurais préféré Sakai, qu'on a vu à gauche, qui nous a fait des belles choses durant quelques mois, qui nous met paillé alors qu'il sait qu'il n'a pas même pas 60 minutes dans les jambes. Donc là, c'est une faute qu'avait commise Simeone lors de la finale face au Real. Et Simeone a compris et a intégré cette donnée. Je ne mets pas un blessé. Éventuellement, un joueur qui rentre.
Si Payet avait réussi sa belle passe,
il a réussi sa belle passe. Il a réussi sa belle passe. Bon,
voilà.
Oui, mais il a mis Germain. Il a mis Germain et pas Glouglou. Bon, et Mitroglou, voilà, même du dos, quelquefois, il peut nous marquer quand il n'y a pas de poteau.
Je suis plus marqué quand même, moi, sur l'erreur pour moi de Garcia, c'est le. où j'ai retrouvé le Garcia frileux contre les gros, ou en tout cas qui est pas serein et qui est un peu dicté par le par son vestiaire ou par le regard des gens, des observateurs ça, vraiment de son vestiaire, c'est Ocampos en fait.
Oh,
je n'ai pas compris pourquoi il sort Ocampos.
Personne ne comprenait.
Si, je la comprends. En fait.
Non, ça glace le stade.
Ça surprend. Non, mais,
je la comprends dans le sens où voilà, il se dit à ce moment-là, je ne sors pas Thauvin qui pourtant est transparent. Thauvin se cache. Contrairement au Campos. Oui.
Il sort pas
et parce qu'on est dans le statut, en fait. On est dans c'est le statut. Alors, Germain, il le sort pour Mitro après. Je pense qu'il avait déjà prévu. Il aurait pu le faire plus tôt. C'est vrai, Annie. Mais au Campos, c'est vraiment. On en a vraiment que c'est vraiment une question de statut, quoi. Qu'il y en a un qui sera peut-être dans la liste des Bleus ce soir. Donc, il joue beaucoup. Qui a des stats assez, assez incroyables. Mais il faut le constater aussi souvent contre Metz, Guingamp ou Troyes. Mais c'est une réalité aussi, il faut le dire. Et voilà, et là j'ai retrouvé le Garcia un peu timoré, un peu enferré dans sa une sorte de bien-pensance, quoi. Pour être un grand coach, faut aussi faire des choix qui marquent et qui touchent tes meilleurs joueurs.
Et Ocampo, c'est ce joueur vraiment dans la philosophie marseillaise
qui mouille le maillot, il perce la défense. Et au-delà de ça, Ocampo, pour moi, faites attention, il va partir en mercato. Il s'est montré là aux Espagnols. Ah ouais. La presse espagnole parlait de lui. En disant c'est quand même assez incroyable, il a transpercé la défense de l'Atlético.
Moi, pour revenir à Garcia, je pense que déjà au départ l'OM, pour moi c'est le meilleur choix que l'OM ait fait en prenant Garcia, un entraîneur français, qui a l'expérience à l'étranger.
Ah oui, je crois que ça, il a insufflé quelque chose depuis qu'il
après,
est là.
Après bon, il y a peut-être une petite erreur au niveau du recrutement sur l'attaquant. On nous a fait balader un peu.
Diego Costa quoi.
Après,
on attendait Diego.
Moi ce que je veux dire c'est que au moment où on démarre la saison, il faut plus revenir en arrière. On a un effectif, on le savait, on avait un effectif très léger, avec un banc très réduit. Donc, et regardez la saison qu'on a fait. On arrive en finale. Donc, on arrive en finale. Il faut aussi regarder comment on arrive en finale. On arrive en finale avec un coaching de Garcia en demi-finale, un coaching de Garcia en quart de finale. Aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher à Garcia en finale. Une finale, ça se joue sur des paris. Sur des paris. Le pari, il l'a fait sur Dimitri Payet. Il était blessé. Je le mets, je ne le mets pas, je ne le mets pas. On a eu le même cas de figure en 2002. Vous vous souvenez, le troisième match de la France en 2002
avec Zidane.
Il est blessé. On le met, on ne le met pas. Ils l'ont fait jouer, il était blessé. Donc, c'est un pari. C'est où on se qualifie, où on ne se qualifie pas. Où on gagne.
Et ça ne marche pas souvent, en fait.
Voilà,
hein,
exactement.
Ça marche pas souvent. On avait eu Drogba en 2004 aussi. Ouais.
Oui, en 93, Bolly veut sortir au bout de 30 minutes
aussi. Oui, exactement.
Mais Tapie refuse.
Donc, on fait des paris.
Il n'y avait plus de Tapie.
Hier, il a failli être judicieux, ce pari, d'ailleurs, avec la passe de Payet. Voilà. Après, il a fait un pari. Il ne peut pas faire le pari sur Rolando, qui est blessé aussi. Il ne peut pas faire le pari sur Mitroglou, parce que j'ai entendu Mitroglou, il fallait le faire entrer avant. Mais est-ce que Mitroglou, il a une demi-heure dans les jambes? Il a peut-être pas une demi-heure dans les jambes. Peut-être qu'il a 15 minutes dans les jambes.
La grande question autour de Mitroglou cette saison, bien sûr.
Mais il est blessé, Mitroglou. Sinon, c'est lui qui joue. Parce qu'avant sa blessure, c'est lui qui jouait, Mitroglou.
Sur Garcia, on a le même. C'est pareil que ce que je disais sur les grands buteurs. Est-ce qu'on a le moyen à l'OM d'avoir mieux que Rudy Garcia? C'est bien, Rudy Garcia. Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il a quand même fait avec un effectif pour le moins bancal. Je suis pas faible, parce qu'il y a quand même des bons joueurs. Mais plus ou moins bancal. On s'est suffisamment moqué de lui en début de saison pour ne pas, aujourd'hui, parce qu'on a perdu un match, jeter l'entraîneur avec l'eau du vieux port. Hein, mais le problème, c'est que Rudy Garcia, en effet, dans les grands matchs, il a cette réputation de pas trouver les solutions justes, de la même manière qu'à l'époque quand on fait une finale avec Courbis avait aussi la réputation de l'entraîneur qui ne gagnait jamais rien. Donc on a toujours ce type d'entraîneur, parce que avoir un entraîneur winner, gagnant, qui motive les troupes, aujourd'hui dans le football, c'est pareil qu'un buteur, c'est cher.
Alors l'avenir, comment le bâtir? Est-ce que les dirigeants sont rentrés aussi dans cette onde positive qu'a semé l'OM toute la saison? Eh bien, on va écouter Jacques-Henri Hérault qui s'est exprimé. Vous nous parlerez aussi de Franck Marcourt après le propriétaire américain Mathieu, puisque vous avez parlé avec lui. Mais écoutons d'abord le président directeur de ce club.
Très fier. Comment ne peut-on pas être fier de ce qu'ont fait ces garçons? C'est une campagne qui a démarré le fin juillet à Ostende en Belgique. C'était notre 61e match. Ils ont à chaque fois montré énormément de cœur. Ils ont été vaillants, ils ont été guerriers. Je crois qu'ils ont fait honneur à ce maillot. C'est peut-être ce qu'on attendait d'eux. Et bah, voilà, moi je leur tire un coup de chapeau parce que ils ont été grands. Je crois que la marche était peut-être un peu haute. Même si en première mi-temps, l'équipe a donné, je trouve, un très beau visage d'elle-même. Mais voilà, c'est en face une très très grande équipe qui sait exploiter la moindre erreur. Il y en a eu. Et pourtant, on a eu aussi des occasions. Mais je crois que, voilà, bravo à l'Atlético Madrid. Ils sont des grands champions, une très belle équipe. Et nous, ça nous donne envie de continuer, d'aller plus loin encore. Et on reviendra plus fort la saison prochaine.
Pour conclure sur cette OM, alors, l'avenir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette épopée leur a donné envie peut-être de faire mieux?
Ben, j'espère.
Et d'investir
la
plus.
La question, c'est, ça va être de sonder le cerveau de.
Le portefeuille.
Le portefeuille de Franck McCourt.
Alors, vous avez essayé un petit peu hier soir.
On a essayé un petit peu. On va réessayer parce qu'on va l'avoir normalement bientôt dans l'équipe. On va attendre aussi de savoir ce que va faire l'OM. Est-ce que l'OM va être sur le podium et se qualifier pour Ligue des Champions? Parce que ça fait une différence à 60 ou 70 millions d'euros. Donc, c'est autant d'investissements qu'il ne mettrait pas de sa poche et qu'il pourrait mettre sur d'autres choses. Ce qui est sûr avec Franck McCourt, c'est que, par exemple, il va pas investir n'importe comment. Je pense qu'il a mis les transferts à la paillette ou les gros salaires qu'il a déjà, il va pas multiplier ça s'il voit qu'il n'est pas gagnant derrière ça. Il va plutôt investir dans des actifs, par exemple le centre de formation, où là on va continuer de construire, il insiste beaucoup là-dessus, sur
des
jeunes.
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de gens sur lesquels ils peuvent compter dans le centre de formation.
Par exemple, c'est une bonne question, Annie, parce que tous les formateurs, en tout cas le directeur du centre de formation et les principaux entraîneurs des équipes jeunes, sont en fin de contrat là en juin, donc on va voir s'ils vont nous prendre quand même des pointures, par exemple, dans ce domaine de la formation. Autre chose, c'est le stade, l'exploitation du stade. Là, il va falloir sortir de l'argent et beaucoup d'argent pour devenir l'exploitant exclusif du stade auprès d'Arema. Ils sont en négociation. Là, on est sur des sommes qui vont après être sur du 20-25 millions d'euros chaque année à sortir de l'OM pour faire des bénéfices x2, x3. Et ça, il va investir là-dedans parce que c'est quelqu'un qui est très fort là-dedans, qui a commencé, qui a fait fortune dans les parkings à Boston et qui reprenait des No Man's Land et qu'on faisait des parkings.
À Marseille, il y a de quoi faire.
Voilà, à Marseille, il pourrait faire
devenir le vélodrome.
Donc, vous voyez, Annie, pour lui, ça se joue autant là que sur l'achat d'un Diego Costa ou d'un Diego Costo.
Ou d'un Diego Costo. Alors, par exemple, un Balotelli? Vous y croyez? Il faut y croire.
Moi, j'y crois à Balotelli parce que on est sur un buteur justement qui, si on est en Ligue des Champions, on peut payer son salaire, on peut payer son indemnité de transfert qui sera de 8-10 millions d'euros pour Nice. Et ça, on est sur des prix abordables pour l'OM. On est typiquement dans le type de profil intéressant, surtout qu'il est aussi chez Puma et ça compte un peu l'équipementier. C'est le nouvel équipementier de l'OM à partir de cet été.
On a remis le prix Marc Vivien Fauet de RFI France 24 cette semaine à Karl Toko Ekambi, attaquant camerounais. Est-ce qu'il aurait, selon vous, le profil pour venir à l'OM?
Karl Toko Ekambi, il rappelle un peu dans son profil Mamadou Niang, capable d'évoluer en pointe et sur les côtés. C'est quelqu'un qui est très apprécié, qui connaît d'abord bien Franck Anguissa. Je les avais vus ensemble longtemps à Angers, qui a une bonne mentalité et qui, effectivement, est très apprécié par les dirigeants marseillais, qui n'ont pas encore fait d'offres, parce que justement on attend, comme Villarreal l'a fait, mais Marseille,
on attend
la 38e journée. Si l'OM n'est pas en Ligue des Champions et que les enchères ne montent pas trop, c'est typiquement le genre de joueur sur lequel on peut essayer d'aller et qui en plus peut exploser vraiment à l'OM.
Richard et Gilles, vous irez encourager l'OM contre Amiens au Vélodrome ce week-end?
Bien sûr, moi je crois qu'il faut y aller d'abord pour les remercier de cette folle aventure. De nous y avoir fait croire encore une fois, ça fait du bien, ça nous remonte le moral, la ville allait mieux. Bon, là je vous cache pas, depuis ce matin on est un peu en chape de plomb, mais globalement, même pour les quelques heures de folie, merci. Et puis ils ont créé, et là vraiment le coach Garcia a eu une vraie importance. Il avait créé un collectif, il avait créé un groupe d'hommes qui étaient prêts à monter au combat. Voilà, l'Atlético, même pas peur, on y va, et on y va tous ensemble. Et donc, juste pour ça, on va aller leur dire merci. Maintenant, dans le cadre comme ça d'un groupe d'hommes, tout recrutement va être à considérer en fonction de cela. Est-ce quelqu'un qui est capable de s'intégrer à un groupe? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un
alchimie,
qui...
En fait.
Voilà, et c'est toute la problématique avec Balotelli, par exemple, qui, et j'entends bien les accents de foot business que prend Mathieu tout d'un coup pour nous rappeler son équipementier, etc. Mais est-ce que le Balotelli est capable de véritablement se fondre dans un collectif et de jouer aussi pour les autres et de ne pas regarder uniquement la crête qu'il porte sur lui?
Moi, je pense qu'il faut, bien sûr, comme tu l'as souligné, je pense qu'il faut vraiment que le stade est plein déjà. Donc, déjà, il n'y a même pas. Il n'y a plus de place.
Je voulais acheter une place.
Ben non, il n'y a plus de place depuis bien 15 jours ou 20 jours, il n'y a plus de place. Donc je pense que ça sera plein et je pense que les joueurs vont être remerciés déjà par leur parcours en championnat, de deux, par leur parcours européen et aussi de trois parce qu'il y a encore une finale. Et il y a encore un billet pour la Ligue des Champions que tout Marseille attend quand même. Donc le stade sera plein et ça va pousser parce qu'on compte sur un petit match nul de Nice. Peut-être une défaite de Monaco à 3.
Avec un but de Balotelli.
Oui, mais, et puis en espérant que nous ne sommes pas trop fatigués pour prendre les 3 points de la victoire. Après, sur le cas de Balotelli, ce qui se dit à Marseille, Balotelli, il a le tempérament pour jouer à Marseille. Marseille, c'est, voilà, on connaît la ville comme elle est, c'est une ville de ferveur. Donc Balotelli, il n'y a pas de souci. Il ressemble bien à cette ville.
Il est bien dans le profil.
Aujourd'hui, la question, c'est est-ce que Balotelli fera les efforts que Marseille et l'OM vont lui demander. Et je ne parle pas que des dirigeants, je parle même des supporters. Parce que ici à Marseille, ce qu'on aime, c'est les joueurs qui mouillent le maillot. Aujourd'hui, Balotelli, on le voit, c'est quelqu'un qui râle, qui ne court pas trop, qui ne fait pas trop d'efforts. Moi, je l'adore ce joueur, hein, parce qu'il plane des occasions. Bon, il est un peu hautain dans son comportement. Mais est-ce qu'il va coller à ce que les Marseillais attendent?
Il aime vibrer vraisemblablement avec les supporters, parce qu'on l'a vu faire ses adieux à Nice l'autre soir, c'était intéressant. Alors parlons quand même maintenant des vainqueurs et de ces Espagnols qui dominent l'Europe actuellement.
Et avec le monde bientôt.
Avec un petit... Bientôt, ouais, on va y venir aussi. D'abord, un petit mot sur Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, finalement, François Tomasso, il est en forme. Alors, on l'a vu super en forme hier. On va maintenant mettre notre maillot de l'équipe de France. C'est peut-être au très bon moment. Alors, évidemment qu'il est sur la liste de Didier Deschamps, lui, on se pose même pas la question. Mais il est un joueur peut-être au mieux de sa forme à la veille d'une Coupe du Monde.
C'est vrai qu'on peut, on va troquer notre tunique marseillaise assez rapidement pour devenir un Français et supporter les Bleus. Et il y a eu des leçons hier intéressantes et il y en aura encore plus ce soir avec l'annonce. Très vite, pour revenir sur le débat de l'avenir de l'OM, j'ai l'impression que nous, on allait chez Aulas pour tout casser. Et j'ai peur qu'Aulas casse tout chez nous parce qu'il suffit que Lyon gagne et on sera, et ça changera, et quand même, ça changera tout à la donne l'an prochain. Voilà. Parce que malgré tout, pour toutes les projections qu'on peut faire sur l'avenir de l'OM la saison prochaine dépendent considérablement du résultat du match de Lyon.
Et on
a beau faire des plans sur la comète, parler d'esprit, etc. Les gros sous sont malheureusement à prendre en compte. On parle très vite aussi pourquoi l'Espagne domine le monde le football européen actuellement. C'est totalement hallucinant. Totalement hallucinant dans une économie du vol. Alors, j'ai l'impression de parler que de gros sous, mais c'est important. C'est hallucinant dans un football où il y a 10 ans, tous les clubs espagnols étaient en faillite. Et on a introduit le fair play financier pour régler ça. Et résultat des courses, les clubs les plus voyous sont aujourd'hui à la tête du football européen. Il y a quand même un problème au royaume de l'UEFA. Bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, passons à la FIFA et à la Coupe du Monde. Oui, Griezmann, c'est, on le sait, on l'a vu à l'œuvre déjà. Alors il a eu une petite période de doute en début de saison, d'un peu de moins bien, mais c'est aussi ça tout l'intérêt ce qui fait un destin international et un destin en Coupe du Monde d'un joueur, c'est d'arriver en forme au bon moment. Rappelez-vous Ronaldo qui joue pas pendant 4 ans et qui arrive à point pour subitement planter 9 buts et devenir le joueur qu'il a. Je parle pas de Cristiano, je parle de l'autre.
Oui, de l'autre brésilien.
C'est fondamental. Avoir la chance pour Didier Deschamps d'avoir un Griezmann dans la forme où il est en ce moment, c'est assez fondamental et je pense qu'il va être, sinon l'atout principal, il sera, c'est évident, un des fers de lance de cette équipe.
Oui, Griezmann qui a été formé en Espagne.
Voilà, tout à fait, qui est parti très jeune et refusé par Lyon d'ailleurs. Sûr, il était supporter de l'OL avant justement d'être douché et maintenant il aime beaucoup l'OM.
Il est maintenant supporter de l'OM.
Comme
Macron, Mélenchon, tout le monde est supporter de l'OM.
Mais c'est vrai qu'il va arriver dans une. Bon, il avait déjà fait un bel euro, hein, on va pas l'enlever. Mais il va arriver dans une autre dimension. En ayant gagné, il avait perdu, on se rappelle, la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions avant l'euro. Il en avait voulu un peu à l'équipe parce qu'il y avait une à l'époque, faut-il mettre Griezmann sur le banc au début, en tout cas. Il était un peu
poussé.
Mais là, c'est vrai qu'il arrive vraiment dans la forme de sa vie. Je pense qu'il aura normalement conclu, en tout cas Didier Deschamps lui a dit de gérer son transfert à Barcelone avant le mondial. Donc on va pouvoir compter sur un Griezmann de gala.
Alors la semaine prochaine, dans une dizaine de jours, on aura une autre finale européenne. Ça sera la finale à Kiev entre Liverpool et le Real Madrid. Va-t-on voir les deux trophées européens aller non seulement dans le même pays, ce qui s'est passé pas mal ces dernières années quand on a Séville et l'Atlético, ou Séville et le Real, pardon, ou Séville et le Barça. Et là, est-ce qu'on va avoir les deux trophées européens dans la même ville, ce qui est extrêmement rare, mais ça s'est déjà passé à Milan en 1994 avec l'AC Milan.
Ah bah oui.
Et l'Inter.
Moi je dis oui aussi. C'est évident.
Ouais. Malheureusement oui.
Grâce aux Français.
Ouais. Malheureusement oui. Parce que très vite, Liverpool est mon autre club de cœur. J'ai une genre d'éducation anglaise dans ma vie qui fait que je me sens presque binational. Et Liverpool me plaît parce que Liverpool c'est comme l'OM. C'est un club patrimonial, c'est un club de passion. Et si Liverpool est...
Et Klopp a en plus insufflé un esprit un peu droit au but aussi.
Voilà, si Liverpool en est là où il en est aujourd'hui, c'est pas à cause du pognon, c'est pas à cause d'un engouement subit, c'est pas justement à cause de ce foot business dont j'arrête pas de parler. Mais c'est justement à cause de la passion de ce peuple de Liverpooliens qui n'a jamais lâché l'affaire et qui a poussé ce club là où il est.
Mais ils vont pas gagner.
Mais ils vont pas gagner parce que malheureusement la passion et l'amour ne suffisent pas dans le football. Au final, c'est quand même le meilleur qui gagne et j'ai bien peur que le Real soit trop fort.
Le Real est-il si fort, Richard? Le Real de Zizou qui avait fait une déclaration pour encourager l'OM lui aussi.
Ah oui, non mais c'est sûr.
Un Marseille va encore gagner. Une
Vous de la Castellane.
Ça arrive.
Oui, non mais le problème du Real cette année, c'est encore toujours ce qui se dit sur le Real. Le Real cette année, ils sont prenables. Ça me rappelle un peu l'Atlético. On les voit toujours. Ils sont prenables aussi, mais à la fin, ils gagnent toujours. Mais ils gagnent toujours. Mais en plus, ils gagnent depuis 3 ans, quoi. Ouais. Je veux dire, on a beau dire le match de la Juve au retour, au super match, mais il faut pas oublier le match qu'ils ont fait le Real à l'aller. Donc ils le gagnent à la qualification, ils l'ont à l'aller puisqu'ils gagnent 3-0 à la Juve. Il y a personne qui le fait ça. Moi, je pense que pour la finale. Vu que les deux équipes ont deux footballs différents, ça va faire un match un peu feu-feu. Ça ne sera pas comme l'OM parce que Liverpool, cette équipe a des attaquants. Ils vont inquiéter le Real.
Le Pharaon. Liverpool aura un temps fort dans la finale.
Exactement.
Il faudra voir s'ils arrivent à mettre un ou deux buts.
Parce que si leur chance passe.
Salah, Firmino, Mané.
Parce que le Real.
Sur eux pour avoir une occasion à but.
Voilà. Le Real, ils peuvent. L'avoir à la coupe, à l'expérience, mais aussi aux joueurs qu'ils ont. Ils ont des joueurs aujourd'hui. Si vous les prenez, on dit que le jeu du Real, c'est pas. Mais si vous prenez cas par cas les joueurs, ce sont des joueurs top mondiaux.
Et puis quel mental. Zidane a réussi il a refusé tout mercato. Enfin, rappelons-nous de l'été dernier. Il passe un pacte avec ses joueurs. On va en gagner une nouvelle. On fait le serment tous ensemble. Et promis, je ne prends personne d'autre.
C'est l'état d'esprit qui a dans cette équipe.
C'est ahurissant. Il foire le championnat. Il décide de délaisser le championnat pour se concentrer uniquement sur cette coupe. Ils sont véritablement au sommet de l'Europe aujourd'hui.
Bien côté mystérieux, moi, qui me plaît dans le football et dans le sport en général, et ça fait partie des choses dont on peut parler longtemps sans avoir la clé de ça, c'est la culture. Ils ont la culture Ligue des Champions. Le Real, c'est la Ligue des Champions.
Depuis si longtemps.
C'est comme Nadal et Roland Garros. vous êtes en finale contre eux, pratiquement vous avez un match perdu. D'où ça vient? Je sais pas, c'est ancré dans leur génome.
Les années 50 déjà, eux, ont mis sur cette compétition.
Très loin.
Et
c'est
Copa
difficile.
Di Stefano.
C'est le monstre de cette
compétition. C'est le plus grand club du monde. Ils ont les meilleurs joueurs du monde. Et pour affronter ce genre d'événement, en plus, ils font des finales. Ils vont pas être timorés dans les finales, le Real.
C'est bien, Richard Mendy, c'est vous qui avez le mot de la fin. Et c'est bien pour vous remercier encore une fois de nous avoir reçus ici, merci au cœur de Marseille, dans ce petit coin africain qu'est le restaurant Le Ziguinchor.
Gilles. Toute petite chose, juste pour vous dire que je vous l'annonce, nous allons gagner une Coupe d'Europe dans 2 ans. Nous avons eu les larmes de Boli à Bari. Nous avons eu hier soir les larmes de Payet et de Zambo Anguissa. Nous aurons une Coupe d'Europe dans 2 ans. J'invite RFI à
on sera là. C'est promis.
Et au Ziguinchor, on a attend impatiemment le retour de Maffé Gomis pour remettre un plat à la carte, le Maffé.
Le Maffé Gomis. Et le Dimitri Payet.
Merci François Tomaso. Merci aussi Guillaume Ploquin et Marc Fichet qui assuraient la réalisation aujourd'hui. Merci aussi évidemment à David Fidel qui m'a aidé à préparer l'émission. Et on vous dit bien à demain pour le Café des Sports.